Bonsoir à tous. Moi, j'ai fait un exposé qui est très bref et qui vise juste à présenter de façon un peu globale ce qu'on fait en innovation comportementale pour les politiques publiques. L'idée, c'est que quand on fait une politique publique, on pense beaucoup à l'objectif qu'on cherche à atteindre. Comment est-ce qu'on a envie de... Quelle est la société qu'on a envie d'obtenir? Qu'est-ce qui est bien pour la société? Et on oublie souvent que les gens qu'on vise, c'est des humains qui ont un cerveau, qui ont un comportement, qui ont des envies, qui sont motivés ou pas. Et finalement, c'est un petit peu comme si on fabriquait une table sans penser qu'il y a des gens qui vont manger dessus et qu'ils ont des jambes et qu'il faut qu'ils les plient, etc. Donc, de plus en plus, il y a une prise de conscience sur le fait que quand on fait une politique publique, il faut penser à l'utilisateur, et même il faut d'abord penser à l'utilisateur de la politique publique. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'il y a un écart entre les intentions des gens, des citoyens, et leurs actions. Et chaque jour, on fait l'expérience de cet écart dans nos vies quotidiennes. On a envie de perdre du poids, mais quand même, les chips, c'est bon. J'ai envie de rejoindre une banque moins chère, mais j'ai la flemme de changer de banque. Je serais embêtée si j'épargne pas pour ma retraite, mais c'est dans longtemps, donc je vais plutôt dépenser plutôt qu'épargner. J'ai envie de protéger la planète, mais finalement, je vais pas trier mes déchets, puisque de toute façon, ça sert à rien, tout le monde triche. Donc cet écart-là, en fait, on en fait l'expérience au niveau individuel, mais à chaque fois, il y a des conséquences pour la société. C'est la société qui gère les conséquences de ses choix individuels. Par exemple, en termes de santé, l'obésité, la protection de la planète, le pouvoir d'achat. Forcément, si je perds de l'argent à être dans une banque qui coûte cher, ça me fait moins d'argent pour acheter des choses qui peut-être donneraient de la vie à l'économie, etc. Donc... cet écart entre les intentions et les actions, il a un impact énorme sur l'écologie, la protection du consommateur, la santé, la façon dont on collecte les impôts, le marché du travail, la concurrence entre les banques, la façon dont on dépense de l'énergie, etc. Donc de plus en plus, il y a cette idée qu'il faut utiliser ce qu'on appelle des innovation comportementale, alors c'est une traduction de moi. Je ne sais pas quelle traduction va être sanctuarisée. Pour le moment, il n'y en a pas. Le terme anglais, c'est Behavioral Insights. Et pour le moment, il n'y a pas de traduction officielle en français. Donc voilà, ça, c'est ma proposition. Et le but, c'est il faut qu'on arrive à aligner les intentions et les actions des individus. Et pour ça, il faut avoir une vraie compréhension de la psychologie humaine. Et il faut s'appuyer sur des modèles réalistes du comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut identifier les freins cognitifs qui empêchent les gens d'agir en accord avec leurs intentions. Et il faut trouver les bons leviers pour modifier les comportements. Donc cette approche-là, elle est en train de se développer dans plein d'endroits. La Commission européenne a mis en place un Policy Lab qui s'appuie sur les sciences du comportement pour réfléchir à... par exemple, favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, diminuer la violence faite aux femmes, augmenter la concurrence pour augmenter le pouvoir d'achat. Toutes sortes de domaines, tous les domaines que j'ai évoqués là, l'Union européenne recommande maintenant que les gouvernements s'appuient sur les sciences comportementales. L'OCDE, dont la mission est Better Policies for Better Lives, qui est basée à Paris, vient d'écrire un grand rapport qui recense toutes les initiatives en sciences du comportement qui ont été utilisées par les gouvernements pour faire une meilleure société. En France, il y a le Secrétariat général à la modernisation de l'action publique, dont la mission, entre autres, est d'innover, de simplifier les procédures administratives, et qui a une sous-cellule qui est en charge de développer le nudge ou les approches comportementales en général. La Banque mondiale a essayé de mettre en avant dans un grand rapport l'intérêt des sciences du comportement pour lutter contre la pauvreté. Mais alors, le champion des champions dans cette liste, c'est la Behavioral Insights Team. C'est une équipe qui a été créée, une unité qui a été créée par le gouvernement Cameron et qui essaie, encore une fois, d'utiliser la psychologie pour mieux parler aux citoyens et aligner les intentions des citoyens avec leurs actions. Donc, qu'est-ce qu'on connaît comme biais dans le comportement? Qu'est-ce que la psychologie connaît? Par exemple, on préfère le présent, on a des difficultés à se projeter dans l'avenir et on favorise des décisions présentes. Il y a Il y a un écart souvent entre... on n'est pas très bon pour faire des calculs d'intérêt à long terme. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous préférez avoir 10 euros ou 100 euros aujourd'hui ou 125 euros dans 3 semaines, vous allez préférer prendre 100 euros tout de suite, alors qu'en réalité, aucune banque ne vous permet en 3 semaines de faire un placement qui vous permet de passer de 100 euros à 125 euros. Donc on va dire que c'est complètement irrationnel, mais enfin c'est comme ça, il faut le prendre en compte. On a aussi une préférence pour le statu quo, c'est ce qui explique qu'on n'a pas envie de changer de banque. Si vous êtes chez EDF et que chaque mois vous perdez de l'argent parce que depuis la mise en concurrence, il y a des fournisseurs d'énergie qui sont moins chers, vous allez vous dire, bon, d'accord, ok, je perds de l'argent, mais c'est compliqué de changer de fournisseur d'énergie, il faut que je fasse des démarches, j'ai pas envie de les faire. Ça vous prendrait en tout une heure de faire ces démarches. Et le gain en termes financiers pour vous, il serait bien supérieur au temps que ça vous a pris de changer de fournisseur d'électricité. Enfin, je dis EDF au hasard, hein. Je ne suis pas contre EDF du tout. Et puis, il y a l'influence des normes sociales. On est influencé par ce que font les gens autour de nous et encore plus peut-être par ce qu'on pense que les gens font autour de nous. Et parfois, il y a un écart entre ce qu'on croit et... Donc dans le cas de Tout le monde triche, en France, on est une société qui est très défiante. On se méfie de nos concitoyens. Et souvent, on se trompe. En réalité, les gens ont des comportements beaucoup plus vertueux que ce qu'on croit. Les gens paient très massivement leurs impôts à l'heure. Ils trient plutôt leurs déchets, etc. Donc, quels sont la Behavioral Insights Team a essayé d'identifier des leviers. Donc, comment il faut faire pour... faire des politiques publiques qui soient efficaces. Et elle a essayé de simplifier au maximum le processus de création d'une politique publique. Et les leviers identifiés sont au nombre de 4. Il faut faire simple. Donc en France, on a des mécanismes dans les institutions publiques qui visent à simplifier les démarches administratives. C'est très important. Par exemple, pour que les gens accèdent aux minima sociaux auxquels ils ont droit, il faut que ce soit simple. Il faut donner envie, il faut attirer l'attention des gens. Donc parfois... les informations, elles ne sont pas données d'une manière qui attire l'attention des gens. Il faut s'appuyer sur les normes sociales et il faut trouver le bon timing pour agir et pour transmettre des messages. Je vous donne un exemple pour chacun de ces leviers. Donc faire simple, ça veut dire qu'on s'appuie sur la préférence pour l'option par défaut. Donc c'est cette idée qu'on aime le statu quo. Si je vous dis par défaut, maintenant, vous allez avoir une partie de votre salaire ou de votre allocation doctorale, whatever, qui va directement dans un plan retraite qui fera que vous aurez une plus grosse retraite que celle qui vous sera fournie par le gouvernement. Maintenant, il faut envoyer un courrier pour sortir de ça. Évidemment que ça va augmenter, ça va multiplier par 2 le nombre de gens qui épargnent pour la retraite. D'accord ? Il faut réduire le coût pour accéder aux services proposés par les pouvoirs publics et simplifier les messages. Donc ça, c'est un exemple qui a été testé par la Behavioral Insights Team en Angleterre. Tous les exemples, c'est de leur équipe, parce qu'ils sont très bons, donc j'ai pris que eux. Ça, c'est le taux de réponse à une lettre qui envoie les gens vers une plateforme web où ils peuvent faire une tâche administrative. Ça, c'est 19% le taux de réponse, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent dans tous les cas. Mais ça, c'est la web page directement, où là, c'est la web page, pardon, là, c'est directement le formulaire, et là, c'est une web page sur lequel il y a un lien vers le formulaire. Donc en fait, ce qu'on compare, c'est un clic d'écart. Vous voyez ? Donc on a 4% de gens en plus qui font la tâche que le gouvernement a envie qu'ils fassent juste pour un clic. Ça, c'est le coût de un clic. C'est 4% des gens qui ne vont pas jusqu'au formulaire parce qu'il fallait cliquer sur un bouton. Ça, c'est toujours cet exemple de fournisseur d'accès à l'électricité. Donc... c'est un exemple qui a été testé en Angleterre. Sur votre facture, maintenant, il y a un QR code. Vous pouvez le scanner avec votre smartphone. Et directement, on vous dit combien vous auriez payé avec d'autres fournisseurs d'accès à l'énergie. Et pour switcher, vous cliquez et c'est fini. Donc ça, évidemment, vous imaginez l'effet massif que ça a sur les dépenses énergétiques des foyers. Donc, attirer l'attention. L'idée, c'est qu'il faut augmenter la science et la pertinence des informations, par exemple en personnalisant les messages. Donc ces équipes ont testé des choses du genre, on envoie un courrier pour dire vous êtes en retard pour payer vos impôts, et la seule différence, c'est qu'on met votre prénom. Ou la seule différence, c'est qu'on met un post-it par-dessus la lettre avec un message où on voit que c'est personnalisé, c'est écrit pour vous. Ou par exemple, pour récupérer les amendes liées aux excès de vitesse, on met une photo de votre véhicule. D'accord ? On vous parle à vous. C'est pertinent pour vous. Donc ça, ça marche très bien. Et l'autre technique, c'est d'utiliser une approche ludique. Donc ça, c'est l'exemple le plus connu des nudges. C'est à l'aéroport d'Amsterdam, ils avaient un gros problème dans les toilettes des hommes parce que les hommes ne visent pas très bien. So I hear. Et ils avaient essayé toutes sortes de tactiques, notamment les amendes. Et ça a des coûts très importants pour l'aéroport parce qu'il faut nettoyer et ça coûte très cher de nettoyer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'au fond des urinoirs, ils ont peint une petite mouche. Et c'est très rigolo, apparemment, d'essayer de viser la mouche. Et avec ce petit truc, ils ont réduit de 80% les dépenses liées au nettoyage des toilettes. Le levier qui, moi, m'intéresse le plus, c'est de s'appuyer sur les normes sociales, parce que vous savez, on le dit toujours, les êtres humains sont une espèce très sociale, etc. Et c'est vrai. Donc, lorsque c'est vrai, il faut montrer que la plupart des gens ont le comportement visé. Et j'insiste sur le fait que tout ça doit être fait dans un cadre éthique où il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas de dire 100% des Français paient leurs impôts à l'heure si c'est faux. D'accord ? Mais quand c'est vrai, quand vraiment 90% des Français paient leurs impôts correctement, eh ben il ne faut pas se priver de le dire, parce que ça va avoir un effet boule de neige et ça va réduire la défiance. Il faut s'appuyer sur les réseaux, les familles, les amis des individus. Donc, par exemple, dans les comportements anti-vaccination, on constate que les gens qui sont contre les vaccins le disent beaucoup plus, le partagent beaucoup plus avec leur réseau que les gens qui sont pour les vaccins. Notamment parce que les gens qui sont pour les vaccins, en fait, ça leur semble complètement naturel et automatique. C'est pas quelque chose qu'ils ont envie de revendiquer. Et il faut encourager les gens à s'engager publiquement. Donc, une fois qu'on a dit « ça y est, je vous le dis face à vous, je ne fumerai plus jamais de cigarette », je vous l'ai dit et ça m'attache les mains, ça me contraint plus fort à le faire. Donc, voilà un exemple. Ça, c'était pour récupérer, c'était des gens qui étaient en retard pour payer leurs impôts. Ça, c'est le groupe contrôle. Là, on leur dit quelle est la norme nationale de payer les impôts à l'heure. Là, on leur dit quelle est la norme au niveau de leur code postal. Et là, on leur dit quelle est la norme dans leur ville. Et vous voyez que le taux de gens qui sont à l'heure augmente. Et j'insiste sur le fait qu'on leur dit la vérité. À chaque fois, on leur dit la vérité. Le dernier levier, c'est qu'il faut choisir le bon moment pour parler aux gens. C'est quelque chose qui intéresse même les entreprises et puis qui peut tous nous intéresser. Si vous vous envoyez votre email pendant la pause déjeuner, suivant la nature du mail, si c'est divertissant, par exemple, vous augmentez les chances que les gens le lisent. Si c'est un truc de compliqué de travail où il faut remplir plein de cases, vous diminuez les chances que les gens le lisent. Et puis ensuite, ça se retrouve dans une pile de mails et personne ne fera jamais ce que... Voilà. Et il faut aussi aider les gens à planifier, prendre en compte les coûts et les bénéfices immédiats pour l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire au moment où il reçoit votre message, quel est le coût pour lui d'agir ? Quel est le bénéfice pour lui d'agir ? Donc si, par exemple, vous avez envie que les gens se lavent plus les mains pour éviter que la grippe se répande, il vaut mieux délivrer ce message juste à côté des lavabos publics que de le délivrer dans le métro, là où on ne peut pas se laver les mains. D'accord ? Et délivrer des messages au moment où les gens sont plus réceptifs. Donc voilà un exemple. Ça, c'est une expérience où on a demandé aux gens de déclarer le nombre de kilomètres qu'ils parcourent chaque année avec leur véhicule, et c'est les assurances qui demandent ça, et ça fait changer le prix de l'assurance. Donc tout le monde a intérêt à tricher, tout le monde a intérêt à dire qu'en fait, ils ne circulent pas beaucoup en voiture. Les assurances, évidemment, elles ont envie que les gens disent la vérité. La différence entre ces deux conditions, c'est juste qu'on a demandé aux gens de signer leur formulaire avant de remplir le nombre de kilomètres, plutôt qu'après. Donc souvent, ce qu'on fait dans les formulaires, c'est qu'on remplit tout et à la fin, on dit « je déclare sur l'honneur que ces informations sont exactes ». L'autre possibilité, c'est de dire « je m'apprête à déclarer des informations et je signe pour dire que tout ce que je vais vous dire, c'est exact ». Et ça, ça a un effet. Donc là, ils ont évalué l'effet que ça avait en termes financiers. Donc ça faisait un gain de, je crois, 100 pounds par an par assuré. Mais on peut imaginer que pour l'impôt, c'est la même chose. On s'engage avant de déclarer plutôt que de dire « oui, bon, c'est bon, j'ai dit des choses et ça doit être vrai ». D'accord ? Ok, donc dans la minute qui me reste, je vais vous montrer si ça marche. Voilà, on va faire les décideurs publics. Vous prenez votre téléphone portable Et ceux qui ont fait des cours avec moi, ils connaissent ça. Les autres, c'est pas grave. Vous prenez votre téléphone et vous allez m'envoyer un SMS à ce numéro, 06 44 60 09 54. Je précise que ce n'est pas mon numéro. Et vous imaginez que vous êtes directeur ou directrice d'une crèche, vous êtes confronté à un problème récurrent de retard des parents et vous avez décidé que vous allez mettre en place un système d'amende pour lutter contre ça. L'amende, elle est de 5 euros par enfant à partir de 10 minutes de retard. Je vous demande de deviner ce qui va se passer. Diminuer le nombre de retards, augmenter le nombre de retards ou alors ça n'aura aucun effet. Vous envoyez ce numéro là, ou celui-là, à ce numéro de téléphone. Ok, il y a 9 personnes, 12 personnes. On va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est super. Donc, il y a des gens, il y a 47% des gens qui pensent que ça va augmenter le nombre de retards. Et ces gens-là, ils ont raison. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous êtes des décideurs publics et que vous prenez cette décision, vous vous rendez compte qu'en fait, en gros, on a la moitié de chance de se planter complètement, de se dire, mais évidemment que si on fait payer les gens, ils ne vont pas vouloir payer. C'est un truc complètement de Homo economicus rational choice theory de base. Voilà. Donc, je vous montre les résultats parce que c'est une vraie expérience. Donc là, vous voyez le comportement des parents. On leur permet, on leur donne l'amende. Ça, c'est le groupe avec l'amende. Pouf, pouf, pouf. Et ils sont complètement plus en retard. Et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'en fait, les gens, ils sont gentils. Ils n'ont pas envie d'être en retard. Ils sont gênés d'être en retard. Si vous leur permettez de payer leur retard, ils sont moins gênés. Ils disent, bon, bah, c'est bon, voilà, je suis hyper en retard. Voilà 5 euros, limite. D'accord? Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, en fait, quand on a une idée de politique publique, il faut la tester, il faut comprendre ce qui se passe et ensuite, il faut adapter. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est faire un randomized control trial. Donc, en français, on dit méthode essai avec un tirage aléatoire. Et le but, c'est ça, c'est d'essayer. En fait, on essaye de comprendre si une politique publique, elle a un effet. Donc, par exemple, si je vous montre ça et je vous dis, d'après vous, ce programme, est-ce qu'il a un effet positif? Qu'est-ce qui a envie de dire que ce programme, il a un effet positif? Voilà, merci, c'est sympa. Il y a des gens qui ont envie de dire, voilà, mais vous êtes très malin. Donc, vous savez qu'on ne peut rien dire, en fait. On ne peut rien dire si on ne sait pas quel est le contrefactuel, si on ne sait pas ce qui aurait eu lieu si on n'avait rien fait du tout. Donc là, si on n'avait rien fait du tout, effectivement, ça aurait été moins bien. Donc, l'impact, il est positif. Mais on peut imaginer un truc comme ça. On peut imaginer que si on n'avait rien fait du tout, en fait, ça aurait été mieux. D'accord? Et dans ce cas, l'impact, il est négatif. Donc, la seule façon de savoir si une politique publique fonctionne, c'est qu'il faut prendre les gens, les mettre dans 2 paquets, complètement au hasard, et ensuite évaluer, faire l'intervention que sur la moitié des gens, et comparer au groupe sur qui on n'a rien fait. Et la raison, c'est qu'en fait, on peut avoir des intuitions complètement fausses sur le comportement des gens, comme dans le cas de la crèche. Donc la conclusion, c'est qu'il faut s'appuyer sur les sciences du comportement pour créer des politiques publiques plus efficaces qui prennent en compte la psychologie de l'utilisateur ou du citoyen, peu importe comment on veut l'appeler. Il faut utiliser les bons leviers et il faut évaluer avec des bonnes méthodes. Voilà.